question simple, est-ce qu'on peut voir la maladie d'Alzheimer dans le cerveau des gens? On va discuter de ça. Quand on parle de l'imagerie médicale, en tout cas dans le domaine de la neurologie et des maladies neurodégénératives, finalement, il y a deux grands types d'outils. Il y a l'imagerie qu'on dit anatomique, c'est le scanner et l'IRM. D'accord? Donc là, vous avez là-haut un exemple d'IRM. Et puis une imagerie qu'on dit plutôt moléculaire. Et c'est tout ça là, c'est la TEP qu'on appelle la tomographie par émission de positons, qui est en fait le principe de la scintigraphie pour ceux qui connaissent, mais couplé au scanner. Donc la scintigraphie, qu'est-ce que c'est hein? C'est principe, alors, ça se fait pas que pour explorer le cerveau, ça se fait pour explorer plein plein d'organes. C'est que on utilise un traceur, c'est-à-dire une molécule qui va se fixer à quelque chose qui nous intéresse, et ce traceur, on le couple avec un petit atome légèrement radioactif. Très souvent, dans le cadre de ce qui nous intéresse ici, un petit atome de fluor 18. Alors, c'est une radioactivité qui n'a aucun danger, rassurez-vous, mais ce signal radioactif peut être capté par une caméra dédiée et peut donc voir où se fixe ce traceur et donc est-ce qu'il y a des anomalies biologiques mises en évidence et qui nous intéressent. Donc, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on a trois traceurs. Alors, il n'y en a qu'un qui est utilisé en clinique, c'est le FDG pour fluorodésoxyglucose. C'est très simple, c'est du glucose, c'est du sucre qui est marqué avec un atome de fluor 18. On a aussi la TEP amyloïde, donc des traceurs qui se fixent sur les plaques amyloïdes dans le cerveau. Et depuis peu de temps, bon, en réalité, ça fait 2013 le premier papier avec la TEPTO, mais depuis quand même relativement peu de temps, on a des TEP avec des traceurs qui se fixent sur les agrégats de protéines tau. Ce qui fait qu'on est capable d'imager, du point de vue moléculaire, à peu près tout ce qui nous intéresse dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes, les agrégats de protéines tau, et aussi l'hypométabolisme, parce qu'en fait, quand on injecte du sucre marqué au fluor, notre cerveau, il consomme du sucre, et en fait, dans les régions du cerveau qui vont bien, bah vous voyez, en fait, les neurones et les cellules qui les entourent consomment beaucoup de sucre, donc on va avoir beaucoup de signal, alors que les régions qui dysfonctionnent, chez ce patient en arrière du cerveau, vont apparaître en bleu sur cette image. Alors la couleur est recomposée, évidemment, mais en fait, on est capable de se dire que cette région en arrière du cerveau fonctionne un petit peu moins bien, elle est en hypométabolisme, elle consomme moins de sucre par rapport à l'avant du cerveau. Et en fait, il y a des régions très particulières qui sont touchées dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et qu'on retrouve en hypométabolisme. Ça nous permet, par exemple, de faire des diagnostics différentiels avec d'autres maladies neurodégénératives. Ces plages d'hypométabolisme recoupent parfois l'atrophie qu'on retrouve sur l'IRM. Voilà pour les principaux outils. J'y reviendrai petit à petit. Alors, revenons à la clinique de base, parce que ce que je vous ai montré, la scintigraphie, la TEP, on ne la fait pas tout le temps. Hein. La clinique de base, pourquoi fait-on une IRM pour un bilan étiologique de troubles cognitifs? J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous connaissez de près ou de loin la maladie d'Alzheimer, vous prenez en charge des patients, vous avez des proches qui sont atteints de cette maladie, ils sont sans doute allés voir un jour un neurologue, un psychiatre, un gériatre, pour une plainte cognitive, un trouble cognitif qui a été authentifié sur les tests. Et donc, le médecin a prescrit un examen d'imagerie. Pourquoi il le fait? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne prescrit pas une IRM pour voir la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, on ne la voit pas sur l'IRM. En fait, on prescrit une IRM dans un bilan de troubles cognitifs pour éliminer une cause qu'on dit curable, avec un petit peu de guillemets, une cause curable de démence, des pathologies inflammatoires, des hématomes, des méningiomes, des tumeurs, etc. Et puis aussi pour évaluer les lésions vasculaires. Alors, ce que nous dit la Haute Autorité de Santé, qui a un avis sur tout, c'est qu'il faut absolument prescrire une IRM à des patients qui ont un trouble cognitif et à défaut un scanner s'il y a une contre-indication à l'IRM, mais il faut si possible faire une IRM. Alors voilà les genres de choses qu'on cherche vraiment sur l'IRM d'un patient qui se présente en consultation avec un trouble cognitif. Si vous voyez une grosse boule sur cette IRM, ça s'appelle un méningiome. C'est une tumeur bénigne du cerveau qui se développe aux dépens des méninges. Et là, vous voyez, elle refoule, elle vient comprimer vers le haut le cortex frontal, notre cortex frontal qui est très très impliqué dans des fonctions cognitives qu'on appelle les fonctions exécutives. Et ça peut donner des tableaux de troubles cognitifs lentement évolutifs. progressifs qui peuvent mimer certaines maladies neurodégénératives. Mais en fait, ce n'est pas du tout une maladie neurodégénérative, c'est un méningiome, ça s'opère et les patients récupèrent. Malheureusement, on le voit beaucoup moins souvent que les maladies neurodégénératives. Ce qu'on voit peut-être sans doute un peu plus fréquemment, c'est ça, là, vous voyez que sur cette IRM, là, ce qui est noir, ce qu'on appelle les ventricules latéraux, ces ventricules latéraux chez ce patient, vous voyez un petit peu par comparaison ici, sont très très gros, sont très très dilatés. Ça s'appelle de l'hydrocéphalie, on parle d'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Et ça donne un tableau clinique classique qui associe des troubles cognitifs, des troubles de la marche et puis aussi des troubles vésico-sphinctériens. Pareil, c'est un tableau clinique où les troubles cognitifs apparaissent progressivement. Ce n'est pas une maladie neurodégénérative et on peut améliorer les patients en dérivant le liquide céphalo-rachidien, donc en enlevant du liquide céphalo-rachidien, soit en faisant des ponctions lombaires répétées, soit plutôt en dérivant le liquide céphalo-rachidien vers le cœur ou le péritoine. Donc ça aussi, ça se traite. Donc c'est pour ça, surtout, qu'on fait une IRM, c'est pour rechercher ces causes-là. Et ce qu'on recherche aussi, parce que c'est important dans notre raisonnement pour aboutir à un diagnostic clinique, ce qu'on recherche aussi, c'est ces anomalies vasculaires. Alors, je ne sais pas si ça rentrait très bien, mais globalement, toutes les plages blanches que vous voyez sur cette IRM, c'est la souffrance des petits vaisseaux du cerveau, des micro-vaisseaux du cerveau, qui se bouchent, parfois aussi peuvent saignoter. Si vraiment ces anomalies sont trop nombreuses, elles peuvent empêcher effectivement un fonctionnement correct du cerveau et induire des troubles cognitifs. Ce qu'on peut voir aussi, bien sûr, c'est un authentique AVC, parce que ça, finalement, ça s'installe progressivement. On ne se dit pas, tiens, il m'est arrivé quelque chose d'une seconde sur l'autre comme un AVC. Ça s'installe progressivement et ça donne des troubles cognitifs, ces maladies des petits vaisseaux. Mais on peut faire d'authentiques AVC, qui parfois ne vont pas donner de grosses paralysies ou de gros troubles du langage, mais qui, quand ils s'installent dans des régions cérébrales qui sont très éloquentes, on dit, pour la cognition, là, ici, on est dans les noyaux médiaux et antérieurs du thalamus, qui sont très impliqués dans le circuit de Papez pour la mémoire, et bien ça peut donner, certes d'apparition plutôt brutale, mais qui sera peut-être reconnue de manière progressive par l'entourage, ça peut donner un tableau de troubles mnésiques de la mémoire, qui peuvent même ressembler un petit peu à ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, mais en fait, ce n'est entre guillemets que un AVC, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle pour le patient, ça veut dire que ça peut en partie un peu récupérer avec de la rééducation, alors que malheureusement, une maladie d'Alzheimer, encore aujourd'hui, je vous en ai parlé juste avant, c'est quelque chose qui évolue défavorablement. Donc voilà pourquoi on prescrit essentiellement une IRM pour faire le bilan d'un trouble cognitif. Une fois qu'on a évalué tout ça, oui, effectivement, sur l'IRM, on va aller regarder si on a des petits arguments de support, des arguments en faveur d'un diagnostic, pourquoi pas, de maladie d'Alzheimer. Et ce qui est habituellement recherché, c'est la fameuse atrophie de l'hippocampe. Alors, l'atrophie de l'hippocampe, vous l'avez peut-être vu, ceux qui ont déjà vu des comptes rendus de radiologie, souvent elle est classée par le radiologue selon la classification de Skeltens, qui est un neuroradiologue néerlandais qui travaille toujours à Amsterdam. Alors, la publication Princeps, je vous ai mis les images ici de cette première publication qui date de 1992. 1992, il faut se rappeler, on n'avait même pas d'IRM dans tous les SAFU de France. Et donc, ce que montrait Philippe Skeltens ici, c'est voilà des hippocampes qui vont bien, vous voyez, des belles boules bien dodues, on ne voit pas les ventricules latéraux au-dessus, et qui vont s'atrophier, ici une atrophie qu'on classerait certainement chez Skeltens 2, on voit apparaître du noir là, autour de l'hippocampe, c'est simplement que le liquide céphalo-rachidien qui apparaît en noir sur cette IRM commence à prendre la place de l'hippocampe qui s'atrophie. Puis si on a une atrophie beaucoup plus sévère, qui touche d'ailleurs d'autres régions du cerveau, avec un hippocampe, vous le voyez ici, tout rabougri, tout atrophié, et le liquide céphalo-rachidien qui a pris la place tout autour. Skeltens 0, Skeltens 2, Skeltens 4. Cette échelle, elle est intéressante, et on s'en sert toujours 30 ans après dans les comptes rendus de radiologie, donc ça veut dire qu'elle a quand même son intérêt. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est très important, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que l'atrophie hippocampique n'est pas du tout spécifique de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en consultation parce qu'ils ont eu une IRM, pour une raison ou pour une autre, des fois des motifs pas valables. J'ai eu mal à la tête un jour, j'ai oublié mes clés le lendemain, mon médecin traitant m'a prescrit une IRM, et il y a marqué « atrophie hippocampique Skeltens 1 ». Alors les gens, ils se disent « qu'est-ce que ça veut dire ?» Ils vont sur Internet, tapent ça, Et alors là, vous avez des milliers de pages Google qui vous renvoient toutes vers la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à Skeletons 2, ça n'a aucun caractère pathologique. D'accord ? Alors, ça dépend un petit peu de votre âge, mais il n'y a rien à dire jusqu'à Skeletons 2. À 3 à 4, il faut éventuellement commencer à s'inquiéter. Il se passe peut-être quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas nécessairement une maladie d'Alzheimer. En réalité, toutes les maladies neurologiques ou psychiatriques chroniques vont induire une atrophie hippocampique. C'est le cas. Alors, d'autres maladies neurodégénératives apparentées à la maladie d'Alzheimer, les dégénérescences lobaires frontotemporales, par exemple, atrophient de manière beaucoup plus sévère l'hippocampe que la maladie d'Alzheimer. On retrouve de l'atrophie de l'hippocampe dans la sclérose en plaques, dans les démences vasculaires, chez les schizophrènes, les vieux bipolaires. Enfin voilà. Donc, ce n'est pas spécifique. C'est un message important à avoir en tête. Mais bien sûr, si tout est raccord, je dirais, une histoire clinique qui va avec une maladie d'Alzheimer, des tests neuropsychologiques qui sont compatibles avec le diagnostic de maladie d'Alzheimer, une IRM qui vous a exclu les tumeurs, l'hydrocéphalie, les lésions vasculaires, et que vous voyez un petit peu d'atrophie sur l'hippocampe, vous vous dites « Ok, ça commence à véritablement sentir la maladie d'Alzheimer ». Autre exemple d'atrophie focale, parce que c'est ça qu'on cherche sur l'IRM, c'est pas l'atrophie globale. L'atrophie globale dans un cerveau, on se dit que le patient a un problème, mais on est incapable de savoir lequel. Ce qui nous intéresse du point de vue de la sémiologie radiologique, c'est s'il y a une atrophie focale. Est-ce qu'elle touche plutôt une région du cerveau ou une autre ? Ça peut nous mettre sur la piste d'une maladie plutôt qu'une autre. Chez les Alzheimer du sujet jeune, souvent les hippocampes sont relativement préservés. Par contre, on retrouve des belles atrophies, notamment du cortex pariétal ici. Donc on peut avoir une maladie d'Alzheimer sans atrophie de l'hippocampe. Je reviens un peu plus en détail sur l'imagerie nucléaire ou l'imagerie moléculaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces examens, l'idée c'est une molécule qui se fixe sur quelque chose qui nous intéresse, couplée à un isotope radioactif, ça s'appelle un radiotraceur, c'est injecté, et en fonction des examens, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie plus tard, on les met sous une gamma-caméra ou un tomographe par émission de positrons, et on recueille ce petit signal radioactif pour voir s'il y a des anomalies qui nous intéressent. Soit on a des marqueurs qu'on dit de topographie, c'est-à-dire que je vais aller voir où dans le cerveau il y a une anomalie. Donc typiquement la TEPFDG, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des endroits dans mon cerveau, où mon cerveau consomme pas autant de sucre qu'il le devrait. Et s'il consomme pas autant de sucre qu'il le devrait, c'est peut-être parce qu'il y a des neurones qui sont en train de souffrir. Il n'y a pas encore d'atrophie, ces neurones ne sont pas morts, je n'ai pas perdu de substance cérébrale, mais j'ai des neurones qui fonctionnent moins bien, qui consomment moins de sucre. En réalité, ce n'est pas les neurones qui consomment du sucre, c'est les cellules gliales qui sont autour, mais c'est un petit peu l'idée. Et aussi, marqueur de topographie, c'est le cas de la TEPTO. La TEPTO, elle est intéressante parce que c'est à la fois un marqueur de physiopathologie et de topographie. Je peux aller montrer qu'il y a des anomalies de protéines tau dans le cerveau et je peux aller montrer où elles sont. Est-ce qu'elles sont dans le système limbique, comme on le voit dans les maladies d'Alzheimer avec des problèmes de mémoire ? Est-ce qu'elles sont en arrière du cerveau, comme on le voit dans les maladies d'Alzheimer où il y a plutôt des problèmes visio-spatiaux ? Est-ce qu'elles sont dans les régions du langage, dans les maladies d'Alzheimer qui commencent par des problèmes de langage, etc. Et puis, quelle est l'étendue de cette tauopathie, parce qu'on sait qu'il y a une très très forte corrélation entre l'étendue de la pathologie tau et la sévérité de la maladie. Et puis il y a la TEP amyloïde, dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois. Alors la TEP amyloïde, même si on revient un petit peu de cette notion-là, c'est un petit peu, il y en a ou il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a de l'amyloïde dans le cerveau, est-ce qu'il n'y en a pas ? En fait, dès qu'il y en a, il y en a partout. Il n'y a pas vraiment de caractéristiques topologiques particulières. Voilà un exemple de TEPFDG qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez un cerveau de contrôle. Vous voyez que tout le ruban cortical est bien rouge. Là, il consomme du sucre de manière homogène un petit peu partout. Dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, ici relativement débutante, on voit quelques petites régions dans le cerveau où, effectivement, on voit qu'il n'y a peut-être pas une consommation normale de sucre. Notamment, ce qu'on appelle le cortex associatif, ici au niveau frontal et ici au niveau du carrefour temporopariétal, qui sont des régions très impliquées dans la cognition. La TEP amyloïde, alors bon, l'image native, elle ressemble à ça, hein, c'est un petit peu en noir et blanc. Le traceur amyloïde, il se fixe de manière spécifique, vous voyez en noir ici, le signal est recueilli et donc c'est noir. Il se fixe de manière spécifique dans la substance blanche, donc ça c'est pas du tout pathologique, hein, c'est juste que le traceur se fixe aussi dans la substance blanche. En fait, quand on a une maladie d'Alzheimer, le traceur se fixe, vous le voyez ici, absolument partout, d'accord ? Toute l'image est noire, d'accord ? Alors parfois on colore l'image pour y voir un petit peu plus clair. Et ce que vous voyez ici, c'est fixation du traceur que dans la substance blanche, c'est une TEP normale. Fixation du traceur absolument partout, y compris dans le cortex, c'est une TEP anormale. Deux maladies d'Alzheimer. Alors, deux maladies d'Alzheimer, ça se discute. Parce qu'on peut avoir une TEP amyloïde positive et n'avoir aucun symptôme. Et ça, on le sait, et c'est un des grands enjeux de réflexion aujourd'hui dans le domaine. Par exemple, si on se dit demain que oui, on a des médicaments efficaces pour enlever les plaques et limiter le déclin cognitif, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre tous les gens qui passent rue Sainte-Catherine le samedi après-midi, vous avez plus de 60 ans, TEP amyloïde, si elle est positive, je vous traite. Est-ce qu'il faut faire ça ? Aujourd'hui, on est à peu près sûr que non, il ne faut pas faire ça, parce qu'on sait qu'on peut avoir de la TEP amyloïde plein le cerveau et ne pas développer de troubles cognitifs pendant 5 ans, aujourd'hui 8 ans, on en est sûr, et sans doute bien au-delà. Donc on peut avoir de l'amyloïde plein le cerveau et ne développer jamais de maladie d'Alzheimer. Par contre, si on a des troubles cognitifs et de l'amyloïde plein le cerveau, là oui, d'accord, on a bien une maladie d'Alzheimer. Je vous ai remis cette diapo pour vous dire que cette TEP amyloïde, au-delà de ses caractéristiques diagnostique dont je viens de vous parler, pour mettre en évidence la protéine amyloïde, elle pourra peut-être aussi demain nous servir à juger de l'efficacité des anticorps anti-amyloïdes qu'on utilise. Il y a d'ailleurs à ce sujet un essai clinique qui est particulièrement intéressant, dont je vous ai peu parlé, je l'ai juste abordé, qui est celui du donanemab. Le donanemab, c'est une stratégie intéressante parce que aducanumab, lecanemab, on commence le traitement, on ne sait pas quand on l'arrête, hein. On traite, on fait des perfusions. Le donanemab, il est intéressant, parce que les essais cliniques ont été designés comme ça. On traite les patients jusqu'à ce qu'ils négativent leur TEP amyloïde. Ce qui en soi est assez logique. Pourquoi je continuerais à donner des anticorps anti-amyloïdes à quelqu'un qui n'a plus de plaque amyloïde dans son cerveau? Donc, dans ces cas-là, la TEP amyloïde pourrait peut-être demain nous permettre d'évaluer la réponse thérapeutique et si, oui ou non, je dois continuer un traitement. Ça, c'est la TEP tau. Alors, contrairement à l'amyloïde, si vous avez de la tau plein le cerveau, vous êtes forcément malade. Ça n'existe pas une personne asymptomatique avec de la tau plein le cerveau, parce que, on le sait aujourd'hui, la tau, c'est vraiment elle, la protéine serial killer de neurones. Si vous avez de la tau, des agrégats bien matures de protéines tau dans un neurone, il va mourir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, hein, c'est pareil, les images sont colorées, donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a plein d'agrégats de protéines tau. Et alors bon, ça c'est plus une diapo de spécialiste, on va dire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces dépôts de protéines tau, ils peuvent se faire à l'arrière du cerveau, dans les régions visuelles, sur le carrefour temporoparietal gauche, là ici, un petit peu à droite, dans des formes plutôt de maladie d'Alzheimer qui touchent le langage, ou dans d'autres variants un petit peu plus rares, on voit que la protéine tau, elle se dépose dans les régions qui sont impliquées dans le déclin cognitif que l'on observe. Et puis aussi, on pense que cette TEP tau, demain, pourra nous permettre aussi de stadifier un petit peu, biologiquement parlant, en tout cas de pouvoir faire le parallèle avec ce qu'on connaissait en anatomopathologie. C'est-à-dire qu'on a des maladies d'Alzheimer très très débutantes ici, au niveau ce qu'on appelle le cortex entorhinal, qui vont se diffuser petit à petit au niveau de l'ensemble du système limbique pour ensuite rejoindre le cortex. Donc, cette TEP tau est un marqueur. Aujourd'hui, c'est vraiment que de la recherche, mais c'est un marqueur intéressant pour suivre aussi biologiquement l'évolution de la maladie dans le cerveau des patients. Donc, à la question qu'on me posait au début, peut-on voir la maladie d'Alzheimer ? S'il y a un examen qui permet vraiment de voir la maladie d'Alzheimer, c'est bien cette TEP tau. Donc voilà, peut-on voir la maladie d'Alzheimer ? Comme je viens de vous le dire, oui, mais est-ce juste cela la maladie d'Alzheimer ? Je voulais quand même finir là-dessus. Vous avez compris que j'étais quelqu'un de pas très optimiste. Quand je parle des résultats du lecanemab, je suis obligé de souligner les effets indésirables. Quand je parle de l'imagerie et des biomarqueurs, je préfère aussi vous prévenir un petit peu des limites. Je commençais à vous le dire un petit peu avec la TEP amyloïde. C'est pas parce qu'on a une TEP amyloïde positive qu'on a une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une question un petit peu brûlante dans le domaine qui oppose, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué même pour faire simple, un peu les États-Unis et l'Europe. Pour les Américains, depuis quelques années, si vous avez de l'amyloïde et de la tau dans le cerveau, peu importe vos signes cliniques, peu importe si vous avez des signes cliniques ou pas, si vous avez de l'amyloïde et de la tau dans le cerveau, vous avez une maladie d'Alzheimer. Les symptômes, ils s'en fichent. En Europe et en France, on est un gros bastion quand même pour cela. On pense qu'il n'y a pas de maladie d'Alzheimer sans symptômes. Donc, si vous avez de l'amyloïde plein le cerveau, oui, vous êtes à haut risque de développer un jour une maladie d'Alzheimer, mais il est possible que vous ne la développiez jamais. Donc, on ne parle pas de maladie d'Alzheimer sans symptômes. Donc, attention à ne pas faire trop de biomarqueurs, surtout si demain on a des biomarqueurs sanguins, il ne s'agira pas d'aller faire une prise de sang à toutes les personnes de 65 ans qui s'inquiètent de leur mémoire. Peut-être qu'on aura des anomalies biologiques, ça fera de vous quelqu'un à risque de développer la maladie, mais peut-être que vous ne l'aurez jamais.
Moi, juste une petite question pratique. Est-ce que ces examens d'imagerie sont remboursés au cours d'une maladie d'Alzheimer?
Alors, oui, bien sûr. Donc, pour tout ce qui est IRM scanner, c'est bien sûr pris en charge par l'assurance maladie. La TEP-FDG aussi. La TEP amyloïde, jusqu'à présent, non. Parce que, notamment, la commission de transparence de la HAS trouvait que cet examen n'avait pas un service médical rendu suffisant, en disant notamment que la ponction lombaire faisait très bien le travail et qu'on n'avait pas besoin de la TEP amyloïde. Donc ça fait presque 10 ans maintenant que notre communauté des centres mémoire essaye de faire rembourser cet examen, parce que la ponction lombaire, c'est quand même quelque chose qui est invasif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez tout le monde, hein. Les patients sous anticoagulants, on ne peut pas faire de ponction lombaire sous anticoagulants, donc ça implique d'arrêter les anticoagulants avant de les reprendre, ce qui n'est pas toujours très agréable. Il y a des patients, surtout âgés, avec beaucoup d'arthrose dans le dos, on ne peut pas leur faire de ponction lombaire. Je fais une digression, je suis désolé. La ponction lombaire, on ne peut pas la faire à tout le monde, donc on avait vraiment besoin de cette TEP amyloïde dans certains cas, et la commission de transparence de la HAS l'été dernier a dit OK pour un éventuel remboursement. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera pris en charge par l'assurance maladie, mais ça pourra au moins être pris en charge localement par certains CHU. Nous, on est d'ailleurs en train de travailler là-dessus. La TEPTO, c'est disponible qu'en recherche, donc non.
Merci.